Le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue à ce 78e numéro du magazine des Nations Unies. Et tout de suite, le sommaire. La déclaration des États-Unis demandant explicitement au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC et de cesser tout soutien au M23 est conforme à l'accord cadre d'Addis Abeba. Réaction de la MONUSCO par son porte-parole. Dans ce magazine, un dossier sur la position américaine et les réactions qu'elle a suscitées. Une première en RDC, le lancement début août de l'opération identification biométrique des déplacés de guerre au Nord Kivu, une initiative de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM-RDC. Des explications tout à l'heure avec notre invité. Enfin, juge des tribunaux pour enfants, le concept est peut-être nouveau à Kinshasa, mais il fait du chemin. Plus d'une dizaine de ces magistrats ont prêté serment dans la ville. Retour sur le concept dans la rubrique décryptage.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour. L'actualité de la semaine a été dominée par la réaction du département d'État américain par rapport à l'insécurité au Nord Kivu. Le département d'État américain condamne explicitement le Rwanda dont les preuves de la présence de ses troupes au Nord Kivu et de son soutien au M23 sont patentes selon cette déclaration. Au cours de la conférence de presse des Nations Unies mercredi dernier, Manoj Munubai, porte-parole de la MONUSCO, a indiqué que la position de la Maison Blanche est une bonne chose et qu'elle rejoint le principe de l'accord cadre d'Addis Abeba, un condensé de Noremi Singakalala.
Les journalistes présents à la conférence hebdomadaire de la MONUSCO n'ont pas raté l'occasion de revenir sur la réaction du département américain par rapport au Rwanda. Pour le porte-parole de la MONUSCO répondant au chevalier de la plume, la réaction de Washington, membre permanent du Conseil de sécurité, va certainement contribuer à ramener la paix en RDC et dans la région, parce qu'en fait, par cette position, souligne-t-il, le gouvernement américain donne plus du tonus à l'accord cadre d'Addis Abeba, Manoj Munubai.
En fait, cela est conforme à l'esprit et à la lettre de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui a demandé que tous les pays de la région cessent tout soutien aux différents groupes armés qui opèrent en République démocratique du Congo. Les États-Unis, c'est un pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité. En venant ajouter sa voix au contenu de cet accord cadre, cela ne peut que lui donner plus de force et nous espérons que cela va aussi constituer un apport supplémentaire pour faire plus de pression sur les pays de la région afin de définitivement cesser leur soutien à ces différents groupes armés.
En fait, le département d'État américain s'est fondé notamment sur le dernier rapport de l'ONG Human Rights Watch. Dans ce rapport rendu public le 23 juillet 2013, Human Rights Watch affirme en effet que les rebelles du M23 ont exécuté sommairement au moins 44 personnes, violé au moins 61 femmes et filles et continuent le recrutement forcé des enfants. Là aussi, les faits relevés par cette ONG internationale ne font que confirmer ce que la MONUSCO a déjà eu à dénoncer, le porte-parole de la MONUSCO.
La réaction de la MONUSCO face au rapport de Human Rights Watch. En fait, Human Rights Watch n'a rien dit de nouveau en ce qui nous concerne, mais renforce ce que nous avons toujours dit. Les conclusions de Human Rights Watch ne sont pas tellement différentes de nos propres conclusions à nous. Ce qui peut différer, c'est peut-être les chiffres. Parce que nous avons des protocoles différents en ce qui concerne les enquêtes et la publication de nos rapports. Mais dans les faits, ça se recoupe. Les exactions, l'utilisation des enfants et les tueries extrajudiciaires, ce sont des choses que la MONUSCO a aussi reçues comme information. Donc, sur ce point, il n'y a rien de nouveau. Mais ça renforce en fait le fait que le M23 est en train de commettre des exactions, des atteintes graves aux droits de l'homme, des manquements au droit international humanitaire. Aujourd'hui, cela se confirme de plus en plus.
Autre réaction à la déclaration américaine, le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole, apprécie la position de Washington, laquelle indique la source de l'insécurité entretenue dans l'est de la RDC, précise Lambert Mende. Par ailleurs, à l'ouverture jeudi dernier d'une réunion spéciale du Conseil de sécurité sur la situation de l'est de la RDC Congo, le secrétaire d'État américain John Kerry a indiqué que la souffrance dans les Grands Lacs n'avait que trop duré et que son gouvernement était favorable à la mise en œuvre de l'accord cadre pour une paix durable dans cette région.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La semaine dernière, une dizaine de juges des tribunaux pour enfants ont prêté serment à la cour d'appel de la Gombe à Kinshasa. Mais qu'est-ce qu'un tribunal pour enfants? Comment fonctionne-t-il? Qu'est-ce qu'un juge pour enfants? Quelle formation en reçoit-il pour prester? Maître Emmanuel Nongueran-Kan, conseiller juridique à la protection de l'enfant à la MONUSCO, décrypte pour nous ces différents concepts. Il répond aux questions de Jean-Pierre Elali Coco.
Maître Emmanuel Nongueran-Kan, bonjour.
Bonjour.
Bon, la semaine dernière, une dizaine de juges des tribunaux pour enfants ont prêté serment. C'était ici à Kinshasa. Alors, qu'est-ce qu'est un tribunal pour enfants?
Le tribunal pour enfants, c'est un tribunal composé des juges spécialisés et dont l'objectif est d'assurer le bien-être de l'enfant, d'assurer l'éducation à l'enfant.
Assurer l'éducation de l'enfant, mais c'est seulement depuis 3 ans, donc depuis mars 2010, que ces tribunaux existent en République démocratique du Congo. Pourquoi avoir attendu pendant si longtemps?
Il faut préciser que la justice pour enfants existe depuis longtemps en RDC. Avant les tribunaux pour enfants, ce sont les tribunaux de paix qui faisaient office des tribunaux pour enfants. Mais avec la loi portant protection de l'enfant qui a été promulguée en 2010, cette loi a créé des tribunaux spécialisés pour enfants. 2 ans après, on a commencé à installer les tribunaux pour enfants, d'abord dans cette ville. Et la prestation des serments dont vous parlez concerne la deuxième série de magistrats qui vont rejoindre ceux qui sont déjà sur le terrain.
Au total, pour l'instant, il y a combien de tribunaux d'enfants? Il y a combien de juges pour enfants?
Je parle les nombres exacts des tribunaux pour enfants et des juges pour enfants. Avant, il y en avait 7, mais on vient de créer des tribunaux pour enfants à Kananga, en Mbujimayi, à Bandunduville, en plus de Kikwit, et dans d'autres villes. Donc, on peut atteindre, en tout cas, environ 15 tribunaux pour enfants, si j'ai bonne mémoire.
Et les juges pour enfants?
Il y en a une trentaine.
Une trentaine, c'est déjà une évolution. Alors, comment fonctionne un tribunal pour enfants?
Oui, le tribunal pour enfants, c'est un tribunal qui fonctionne comme un tribunal, mais il a 2 chambres. Il y a la chambre de première instance et la chambre de deuxième instance.
Première instance et deuxième instance, c'est pour le commun des mortels, c'est quoi?
Dans les tribunaux de droit commun, nous avons au premier degré les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance connaît des appels formés contre le jugement rendu par les tribunaux de paix. En ce qui concerne les tribunaux pour enfants, c'est un tribunal spécial, un tribunal, mais qui fonctionne avec 2 chambres, comme un peu le système de la Cour pénale internationale. La première chambre connaît les affaires au premier degré et les recours, les appels contre les décisions rendues par la première chambre ou la chambre de première instance sont examinés par la chambre de deuxième instance.
Et on peut arriver à une condamnation d'enfants qui commet par exemple un délit ou même un forfait?
Et là, je dois préciser les choses. En matière de justice pour enfants, on ne parle pas de condamnation. Il n'y a que de mesures qui sont prises en faveur des enfants.
Même s'il commet un meurtre?
Déjà, lorsqu'un enfant commet une infraction, on dit qu'il a commis un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale. Peu importe la gravité.
C'est un jeu de mots?
Non, c'est pas un jeu de mots. Il faut éviter la stigmatisation. Parce que c'est pas une justice répressive, c'est une justice éducative. Je l'ai dit au début, elle vise le bien-être de l'enfant.
Maître, pourquoi est-il important d'avoir des tribunaux pour enfants dans un pays, alors que des tribunaux existent depuis Belle et Rurette? Donc il y a des tribunaux qui existent. On peut aussi juger les enfants ou même traiter les affaires des enfants dans ces tribunaux-là.
Oui, je l'ai dit au début, il y avait des tribunaux de paix qui faisaient office des tribunaux pour enfants. Mais vous savez, les juges de paix connaissent beaucoup d'affaires dans tous les domaines, je voulais dire, et ils interviennent comme des généralistes. Et en matière de justice pour enfants, ce sont des questions spéciales qui requièrent un personnel spécialisé. Nous avons besoin des juges pour enfants parce qu'il faut étudier à fond les cas de l'enfant, pourquoi il a commis l'infraction, il était dans quel environnement. Et les juges pour enfants travaillent dans une structure multidisciplinaire. Il y a des médecins, il y a des assistants sociaux, il y a des psychologues. Ensemble, ils cherchent à trouver des solutions pour permettre à l'enfant de jouer un rôle constructif dans la société.
Oui, vous qui êtes dans ce domaine-là de justice pour enfants, quelles sont les relations que vous entretenez avec les tribunaux congolais? la justice congolaise en un mot?
Nous avons des bonnes relations, toutes les agences de protection de l'enfant. Nous avons travaillé depuis longtemps avec les ministères de la justice, service des documentations et études du ministère de la justice, les conseils supérieurs de la magistrature, bref, avec les gouvernements, pour avoir d'abord la loi portant protection de l'enfant. Au départ, nous avons fait un plaidoyer. En tout cas, c'est un plaidoyer qui date de 2000. Ça a pris environ 8 ans pour qu'on arrive finalement à une loi portant protection de l'enfant, à l'installation des tribunaux pour enfants, à l'affectation de juges pour enfants.
Maître, est-ce que nos juges sont bien formés vraiment pour traiter des problèmes de l'enfant? Est-ce qu'ils reçoivent une formation?
Oui, chaque magistrat qui sort de l'université a une formation de base. Mais lorsqu'on se lance à la justice pour enfants, on doit absolument être formé. Les premiers magistrats qui ont été lancés pour la justice pour enfants ont été formés. Au moment où je vous parle, il y a une formation en cours de préparation pour ceux qui vont rejoindre ces tribunaux pour enfants.
Alors, une dernière question. Il y a 3 ans qu'on a commencé à installer un tribunal d'enfants. Donc, si j'ai bon moment, c'est à Lubumbashi, donc dans le Katanga. 3 ans après, quelle évaluation faites-vous des tribunaux pour enfants? Est-ce que c'est positif? Est-ce qu'il y a des choses à faire encore?
Oui, il y a eu beaucoup de progrès, mais beaucoup reste à faire. Les premiers tribunaux pour enfants ont démarré pas seulement à Lubumbashi, Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Mbandaka, Kikwit et puis Goma. Il y avait au total 7 tribunaux. Et vous savez, l'installation d'un tribunal implique la mobilisation des ressources humaines, financières, matérielles, ainsi de suite. Avec très peu de moyens, avec les moyens de bord, on a fait ce qu'on pouvait et les résultats, en tout cas, jusque-là sont positifs. Si bien qu'il y a beaucoup de difficultés qu'il faut surmonter, qu'il faut résoudre pour que la justice pour enfants fonctionne comme il faut.
Et à part la justice congolaise, donc le gouvernement, est-ce que vous avez d'autres partenaires avec lesquels vous travaillez?
Le gouvernement congolais, en tête, travaille avec la MONUSCO, l'UNICEF, bref, toutes les agences de protection de l'enfant et même l'Union européenne est vraiment impliquée dans la mise en œuvre des tribunaux pour enfants.
Quelle chance vous donnez au tribunal pour enfants?
Et c'est un tribunal qui a beaucoup d'avenir, mais qui a besoin du personnel. Parce que vous savez, juste en certain moment, on considérait que c'est une matière qui n'intéressait pas beaucoup les gens. Et maintenant, au fur et à mesure on fait les plaidoyers, il y a beaucoup de magistrats qui s'intéressent à ça. Et nous pensons que c'est une justice qui a de l'avenir. Et avec cette justice, nous pouvons bien éduquer nos enfants qui commettent des manquements qualifiés d'infraction. Et ça permettra aussi à nos enfants de trouver des solutions lorsqu'ils ont des problèmes comme en matière d'adoption, en matière de jugement supplétif, ainsi de suite.
Maître, nous vous remercions.
Merci à vous.
Nouvelle en bref, direction la haie où la CPI demande à la défense de Jean-Pierre Bemba de faire diligence. Les avocats de l'ancien vice-président congolais ont jusqu'au 25 octobre prochain, au plus tard, pour faire passer les témoins à décharge. Pour les juges de la chambre de la CPI, la défense porte la responsabilité de la présentation de ses moyens de preuve. Après cette date, le procureur disposera de 12 semaines pour déposer ses conclusions écrites, ont décidé les mêmes juges. Faire des radios locales des véritables entreprises, c'est le but d'un atelier organisé la semaine dernière à Kinshasa, du 22 au 26 juillet, au bureau de l'UNESCO. Des responsables de quelques radios locales, venues notamment du Bas-Congo et du Bandundu, ont pris part à cet atelier dans le cadre du projet financé par la Suède. Les radios locales constituent un maillot extrêmement important dans l'information et la communication de nos populations. C'est ce qu'a indiqué El Hadj Meïssa Diop de l'UNESCO RDC. Et dans le volet humanitaire, sachez que 5000 déplacés ont été recensés en plus d'une semaine après le déclenchement des hostilités entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans la périphérie de Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Ce sont des informations du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA RDC. OCHA qui signale aussi un risque d'insécurité alimentaire et de perte de moyens de subsistance dans le Haut-Uele, cette fois-ci dans la province orientale, suite à la peste porcine déclarée dans 5 des 6 territoires de ce district. Et enseignement pour finir, 45 écoles du territoire de Chabunda au sud Kivu seront bientôt réhabilitées avant la prochaine rentrée scolaire. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, va appuyer ce projet. Selon OCHA, les établissements à réhabiliter se trouvent sur l'axe Kachungu-Nyalumbemba. Ils avaient été endommagés lors des affrontements entre l'armée et la milice Raia Mutombo, qui c'était en novembre 2012. Une première en RDC, l'opération identification biométrique des déplacés sera lancée début août au Nord Kivu. Plus de 2000 déplacés sont ciblés par cette première phase initiée par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM-RDC, avec l'appui des partenaires nationaux et internationaux. Laurent Debouc, chef de mission de l'OIM en RDC, est notre invité. Il évoque avec Jean-Pierre Elali Coco tous les contours de cette opération. Suivez.
Laurent Debouc, bonjour.
Bonjour.
L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, va lancer bientôt l'opération d'identification biométrique des déplacés au Nord Kivu. Alors, première question, pourquoi lancer une telle opération maintenant que l'insécurité est persistante au Nord Kivu et pour quel intérêt?
Alors, nous lançons cette opération de manière pilote sur la zone du Nord Kivu pour essayer de moderniser le système d'enregistrement des personnes déplacées. Donc, c'est un nouvel outil que nous voulons mettre en place pour gagner du temps et pour mieux déterminer les besoins des populations selon leur site de déplacement. Donc, cela va favoriser la distribution d'assistance grâce à l'information sur tous les déplacés qui pourra être transmise aux différents partenaires.
Aux différents partenaires, par exemple?
Alors, nous travaillons avec le PAM, le UNHCR, le Première Urgence, AMI, le Danish Refugee Council, le Norway Refugee Council et aussi la protection civile.
Ah, donc, une opération assez colossale, mais qui finance cette opération? Alors, et à quel niveau?
Oui, nous avons des intérêts de deux bailleurs, ECHO, à hauteur de 1,5 million de dollars, et également le gouvernement suisse, sa coopération plus particulièrement, au même montant, donc un montant total de 1 million de dollars pour une activité pilote.
Et ça fait au total combien?
Alors nous allons pouvoir enregistrer avec ces montants 250 000 personnes.
250 000 personnes, donc des déplacés essentiellement?
Déplacés, soit dans les camps, soit dans les sites, dans les familles. Alors nous allons nous concentrer sur la ville de Goma, toute la ville de Goma en particulier, et le Masisi Centre et
Masisi,
Sud.
Oui. Selon OCHA, le Nord qui vous compte 973 000 déplacés internes sur plus de 2 millions recensés à l'est de la RDC, comment allez-vous procéder pratiquement pour leur identification? Comment vous allez vous y prendre?
Donc comme c'est une phase pilote dans un premier temps, on se focalise sur les sites de déplacement que nous connaissons déjà, ou les camps, sur la ville de Goma et alentour, et le Masisi. Donc avec des partenaires, ils vont se rendre sur les lieux, donc les lieux de distribution, là où se trouvent les déplacés, et au fur et à mesure, vont enregistrer les personnes.
Pour ça, vous avez besoin d'une certaine logistique?
Oui, et ça nous l'avons déjà, puisque nous travaillons déjà sur place, où nous avons des partenariats avec différentes organisations qui, elles, font déjà des distributions de vivres ou de biens non alimentaires. Donc c'est avec eux que nous allons travailler. Donc ce n'est pas uniquement l'équipe de l'OIM. Ce que nous avons au niveau centralisé, c'est tout ce qui est encodeur et analyse pour faire la cartographie et des statistiques. Mais les autres partenaires s'associent à nous pour récolter l'information lors de leur travail.
Parce que vous avez cité certains partenaires, est-ce que le gouvernement congolais aussi va travailler avec vous?
Oui, comme je dis, nous on travaille étroitement avec la protection civile et la CNR, donc c'est avec eux qu'on travaille toujours, c'est déjà le cas aujourd'hui, donc on poursuit ce travail avec eux. C'est intéressant aussi de lancer ce processus en vue des mécanismes de recensement qui devraient avoir lieu bientôt en RDC, c'est déjà une première étape qui pourrait faciliter ce travail, donc on travaille étroitement aussi avec le ministère de l'Intérieur.
Ça pourra prendre combien de temps?
Oui, alors la phase de lancement et l'enregistrement devrait prendre 4 à 5 mois.
Et ça commence quand précisément?
Ça commence, je dirais, début du mois d'août. Là, nous sommes en train de former le personnel pour la collecte, mettre en place des logiciels et on pourra procéder à l'achat du matériel spécifique. Il faut savoir que c'est une opération qui se base sur une expérience que nous avons menée au Sud-Soudan, où nous avons exactement le même processus d'enregistrement biométrique pour l'entièreté des déplacés du pays.
Et là, ça marchait. Est-ce que vous pouvez imaginer un peu les difficultés que vous pouvez avoir dans ces genres d'opérations? Parce que vous l'avez dit, vous l'avez fait au Sud-Soudan.
Alors voilà, effectivement, grâce à des échanges que nous avons eus avec nos collègues du Sud-Soudan, on a pu déjà identifier différentes difficultés et aussi les contextualiser par rapport à la RDC en particulier. Il y a une problématique d'enregistrement qui se pose, c'est simplement le fait que les empreintes digitales des enfants de moins de 5 ans ne sont pas nécessairement suffisamment lisibles, donc ça pose un problème. Je me suis dit, il faut donc que nous passions par une campagne de sensibilisation sensibilisation auprès des familles pour que les enfants soient avec les parents pendant l'enregistrement et que l'information soit leur donnée, non pas biométriquement, mais encodée. Mmh. Donc ça, c'est un petit souci. L'autre chose, c'est le fait qu'il faille atteindre certains lieux, et vous l'avez mentionné d'emblée, certains lieux qui sont pas nécessairement sécurisés. Donc nous devons pouvoir aussi, mais là nous le faisons déjà étroitement, mais collaborer avec différents partenaires, entre autres UNDSS, pour nous assurer que nous puissions accéder aux personnes.
Donc c'est une première en République démocratique du Congo ?
Absolument.
Alors, comptez-vous étendre cette expérience, j'allais dire, pour les réfugiés angolais, par exemple, ou dans d'autres contrées de la République démocratique du Congo, on parle des problèmes des déplacés internes?
Alors, pour les personnes internes, oui, aussi, c'est un succès. On devra voir, on va analyser aussi le coût par rapport aux avantages pour voir si on peut le multiplier ailleurs. En ce qui concerne les mouvements aux frontières, c'est une autre problématique sur laquelle nous travaillons, en particulier avec la DGM et la police aux frontières. Nous avons déjà mis dans différents postes frontières des outils qui permettent d'enregistrer les personnes qui sont aussi digitales. Ou si vous prenez l'exemple de Beach Point ou bien l'aéroport de Njili, c'est notre organisation qui a mis sur place tous les systèmes informatisés de lecture des passeports. Ou bien on peut penser mettre en place les mêmes systèmes de lecture biométrique.
Est-ce que, M. Debouc, vous avez un dernier mot?
Non, je pourrais simplement remercier tous mes collègues et tous nos partenaires sur place qui travaillent dans des situations difficiles et leur engagement pour que tout le monde puisse trouver ensemble les meilleures solutions pour les personnes les plus vulnérables.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Et pour notre nouvelle en province de ce dimanche, nous nous rendons au Nord Kivu où plus de 55 000 personnes déplacées vivent dans de très mauvaises conditions dans le camp Mugunga 1, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Goma. La secrétaire exécutive du PAM, Ertharin Cousin, vient de séjourner à Goma. Elle est allée leur rendre visite vendredi dernier. Sifa Maguru y était aussi. Elle nous en parle dans ce reportage.
Ces personnes vivent dans la promiscuité. Elles sont victimes de l'insécurité et ne peuvent sortir du camp pour trouver de quoi assurer leur survie. Le plus souvent, les femmes se font violer et kidnapper par des groupes armés lorsqu'elles vont chercher du bois d'échauffe et même de la nourriture. Ces personnes déplacées ont aussi décrié l'insuffisance des rations alimentaires, le manque de l'éducation et des soins médicaux pour leurs enfants. Toute cette situation, selon le gouverneur Julien Paluku, doit interpeller tout le monde et en particulier les groupes armés, auteurs souvent de ces exactions. Madame Cousin s'est dit touchée par la vulnérabilité et les conditions de vie de ses familles. Elle a également promis de plaider auprès des bailleurs de fonds en leur faveur afin que les rations alimentaires soient révisées quantitativement et même pour les retours de la paix dans leur milieu d'origine. Pour les PAM, la ration est déterminée sur la base de la taille d'un ménage. Néanmoins, le panier est composé de céréales, de légumineuses, de l'huile végétale, du sel et du sucre. Mais les déplacés ont indiqué que ces rations étaient généralement insuffisantes et non régulières. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, je m'appelle Flori Botamba, je suis père de famille et je travaille actuellement chez le Fonds Mondial pour la Nature où je suis exactement chef de projet et point focal RED. Je suis né à l'intérieur du pays, mais j'ai eu la grâce d'être à Kinshasa ici et de commencer mes études à Kinshasa, mes études primaires. J'ai eu la chance d'aller au Bas-Congo où j'étais interne et là ça m'a donné une meilleure manière de pouvoir gérer ma vie. Et mes parents m'ont envoyé en Europe où j'ai fait mes humanités. J'ai fait l'option chimie et j'ai continué en chimie aussi. J'ai fait l'ingénierat. Et puis je suis allé aux États-Unis continuer mes études où j'ai combiné à la fois la gestion des ressources naturelles, mais surtout l'aspect qui est important. J'ai fait aussi des études concernant la parole de Dieu. Et puis je suis revenu ici à Kinshasa. J'ai suivi plusieurs formations à l'étranger sur la gestion des ressources naturelles, et que ce soit en Afrique ou en Asie ou en Europe. Donc j'ai eu vraiment la grâce d'aller dans d'autres pays pour parfaire ma connaissance et ainsi avoir quand même quelques données importantes pour améliorer les travaux que je suis en train de faire dans mon pays. J'ai travaillé bien avant aux États-Unis. Là, je m'occupais de la recherche sur les questions liées au bonobo, la conservation de la nature. Et puis, je suis rentré au Congo, je travaillais dans la société civile congolaise, plus précisément dans le domaine de l'environnement. Et ensuite, j'ai travaillé comme directeur national adjoint de African Wildlife Foundation. Et là, j'ai fait 2 ans et puis je suis arrivé chez WWF. Et actuellement, je m'occupe des questions liées au changement climatique. J'ai réfléchi sur les réponses à donner, plus précisément dans les questions liées aux réductions des émissions liées à la déforestation, à la dégradation des forêts. Et aussi, je m'occupe de la question pour des communautés locales et peuples autochtones. Et je travaille vraiment en symbiose avec la société civile congolaise, avec les communautés locales, avec le gouvernement de la RDC, plus précisément le ministère de l'Environnement. Et dans mes temps libres, effectivement, j'aime bien le voyage, visiter les beaux côtés de notre pays, c'est-à-dire nous avons énormément de sites touristiques, et être avec les enfants, aller faire un tour en ville avec eux, aller dans de bons restaurants, déguster la cuisine congolaise et la cuisine étrangère, lire. J'aime bien tous les sports, je suis énormément le sport. Le matin, lorsque j'ai le temps, je cours. Et j'aime bien la musique chrétienne. Donc j'ai reçu Christ dans ma vie et il est le moteur de ma vie et c'est lui qui conduit ma vie. Donc tout ce que j'ai, c'est Christ qui est l'essence même de ce que je suis. Dans un futur proche, nous sommes en train de préparer un programme à grande échelle au niveau de la province de Bandundu, qui est le programme de réduction des émissions dans la province de Bandundu, dans une zone juridictionnelle. Et que nous espérons rapporter à travers ces programmes plus de 60 millions de dollars à la communauté et aux organisations qui travaillent dans la zone. Et comment apporter ma contribution dans l'amélioration des conditions de vie des peuples congolais, que ce soit dans n'importe quel coin du pays et aussi dans ma province d'origine qui est la province de l'Équateur. Et là, nous continuerons vraiment à travailler d'arrache-pied pour l'avancement de notre pays.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question de ce jour concerne l'incendie d'un village dans le territoire de Chabunda. Suivez.
Carlos Soumpil pour la CSRPM. Monsieur Hebdo Humanitaire, la localité de Kianama, 7 km de Pinikou, dans le territoire de Chabunda, a été entièrement incendiée par les Raya et Mutombo Kidendea. Est-ce que vous avez déjà pris des précautions pour venir en aide à cette population qui est dépourvue de tout?
Yvan Edoumou, chargé de communication et de plaidoyer à Ocha, a répondu.
Nous avons eu les informations sur cet incident. Nos collègues Ocha à Bukavu nous l'avaient relayé. Alors en ce moment, ils sont dans une phase d'évaluation, en fait, d'estimer qu'est-ce qui s'est passé, combien de gens ont besoin d'assistance avant de pouvoir apporter une quelconque aide. Comme vous savez, après chaque événement de la sorte, il faut d'abord faire l'état des lieux, faire une évaluation avant de déployer l'aide nécessaire.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Un seul rendez-vous cette semaine, notez-le dans vos agendas. Du 1er au 7 août prochain s'organise la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Cette campagne de WABA, Alliance mondiale pour l'allaitement maternel, intéresse particulièrement le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. C'est la fin de cette émission. C'était un bonheur de vous l'avoir présenté. Un grand merci de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe. Moi, je suis Mila Kungwini. J'étais à la présentation avec l'assistance technique de Patrick Yassongwa, Nicole Ngaka à la supervision et Jean-Pierre Elali à la coordination. Honoré Misenga était au reportage. Une émission à écouter à tout moment sur notre site www.radiocapi.net. Vous avez une préoccupation, des questions et même des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter. Appelez au 082 30 766 30 et même écrivez-nous à notre adresse mail magun@radiocapi.net. Vous pouvez aussi laisser votre question sous forme de commentaire sur notre site internet juste en dessous de l'émission. Nous vous souhaitons un excellent dimanche. À la semaine prochaine.